Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. C'est le moment de l'interview du jour. On est en fin d'émission. Je retrouve notre chroniqueur régulier, Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Alexis.
On parle bien sûr d'aménagement du territoire et d'architecture. Tu es architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. On a abordé plusieurs sujets sur la densité, sur l'étalement urbain dans le passé et on y revient une nouvelle fois avec un concept qui s'appelle le laneway housing. Qu'est-ce que c'est le laneway housing?
Eh bien, en français, on peut dire habitation sur ruelle. Donc, c'est des logements qui ne donnent pas sur une rue, mais bien sur une ruelle.
Pourquoi parle-t-on de plus en plus de laneway housing? Pourquoi est-ce que c'est en train de redevenir en faveur, à la mode?
Parce que, ben, en fait, il semble que c'est Vancouver qui est une ville pionnière dans le domaine.
Oui.
Il faut dire que c'est un concept qui n'est pas nouveau, dans le sens que dans toutes les villes là, nord-américaines là, au 19e siècle, par exemple, on densifiait beaucoup. Et puis, donc, il y avait des maisons en fond de cour ou des maisons en ruelle ou il y a encore des logements qui datent de cette époque-là qui ont été aménagés dans une structure qui est au fond d'un lot, donc qui donne sur la ruelle. Donc, c'est quelque chose qui se faisait. Ensuite, avec un peu la normalisation des règlements de zonage et d'urbanisme, c'est une pratique qui a été pas mal découragée par les villes là, pour des raisons. Les raisons qui étaient invoquées, là, c'était des questions de salubrité, d'accès en cas d'incendie, d'évacuation donc des résidus ménagers, etc.
Est-ce que les habitations en ruelle permettent de résoudre des problèmes associés à l'étalement urbain et à la pollution des villes, par exemple?
Ben oui, voilà. Donc, en fait, la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est, comme je disais, Vancouver est pionnière dans ce nouvel intérêt pour les logements, les habitations sur ruelle. C'est que justement, ça permet de créer plus de logements. Et on sait que Vancouver a eu une pénurie extrêmement grave de logements abordables. Et donc, oui. L'idée, c'est qu'étant donné que les logements qui donnent sur une ruelle sont généralement plus petits que les logements qui donnent sur une rue parce que l'espace qui est disponible sur le lot est plus restreint. C'était une façon de créer tout d'un coup des logements abordables. C'est du logement locatif d'ailleurs. Le Vancouver a adopté un règlement officiel pour permettre la construction de logements qui donnent sur une ruelle, mais la condition, c'est que ce soit un logement locatif, donc qui est sur le même terrain que la résidence principale, mais qui ne peut pas être une propriété distincte de celle qui donne sur la rue.
Donc, il y a des bénéfices sociaux en termes d'intégration, en termes de faciliter l'accès au logement pour les petits salaires, les travailleurs. Il y a aussi des bénéfices peut-être sur le plan de l'empreinte carbone des villes. Est-ce qu'on a mesuré ça aussi?
Oui, absolument. Une des raisons aussi qui avait été invoquée là, par Vancouver pour permettre ça, c'est justement de densifier les zones qui ont déjà accès aux réseaux de transport en commun et à divers services de proximité.
D'accord.
Donc, c'est un peu, on avait déjà parlé dans d'autres chroniques là, de la question de la densité et de comment favoriser la densité, mais d'une façon qui maintient l'échelle humaine et la des quartiers. Donc, ça semble être une façon de faire qui est très intéressante à ce niveau-là.
Est-ce que ce n'est que le début d'une ère de construction dans les ruelles, dans les villes comme Vancouver? Est-ce qu'on a rapidement utilisé tout l'espace disponible ou véritablement il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup d'espace libre si seulement les constructeurs, les architectes, les acheteurs veulent se donner la peine?
Ce que j'ai pu lire, c'est que à Vancouver, donc depuis que le règlement qui autorise la construction de logements sur ruelle a été mis en place en 2009, il y a déjà 2000 logements sur ruelle qui ont été construits. Là, à savoir si dans le cas de Vancouver, est-ce que ça a déjà tout été utilisé ou s'il reste encore beaucoup de lots potentiels pour ce genre d'intervention-là, je ne sais pas. Dans les autres villes nord-américaines, canadiennes, c'est certain qu'il y a un énorme potentiel, mais les autres villes semblent traîner de la patte par rapport à Vancouver. À Toronto, il y a un certain intérêt pour ça. Il y a quelques exemples, mais c'est un phénomène qui semble être encore limité, même si la ville a émis un certain intérêt pour la question. Il semble que la réglementation qu'ils ont mis en place pour permettre les habitations sur ruelle est tellement restrictive qu'en fait, ça permet pas vraiment. Dans beaucoup de cas, ça ne permet pas d'en construire.
Oui, alors
À mon
c'est un article du Globe and Mail qui nous a mis sur la piste de ce sujet, justement, puisque le
Oui.
Globe rapportait récemment le cas d'une famille, d'un jeune couple de professionnels qui avait réussi à franchir tous les obstacles administratifs de la ville de Toronto et avait finalement obtenu la permission de se construire en ruelle dans un quartier assez dense. Il y a de très belles photos dans cet article et il y a quelques anecdotes qui sont rapportées par le couple très tenace et très persévérant. Il rapporte que les responsables, donc les fonctionnaires municipaux, leur disaient, oui, mais vous seriez pas heureux dans une maison de ruelle, ça vous ennuieriez, vous auriez des problèmes d'espace
Mais c'est
et
comme
eux
s'il y avait
trouvaient
une notion d'insalubrité qui était associée aux ruelles, alors que souvent les ruelles, c'est un lieu qui peut être au contraire très verdoyant, par exemple, et puis qu'il y a une certaine tranquillité des fois qu'il n'y a pas sur la rue. Il y a un bruit aussi, mais c'est souvent, c'est pas le même bruit, c'est plus le bruit de l'activité
Des enfants.
de quartier, les enfants, les familles, et moins de bruit associé au trafic, par exemple.
Exactement. Et d'autre part, les réticences qu'on avait constatées à Toronto, c'était aussi dans des quartiers où le patrimoine était un petit peu fixé dans le temps, avait été comme figé dans une époque très, très précise, par exemple des maisons victoriennes, et il était inconcevable d'apporter, de construire de nouvelles habitations dans ces lieux-là. Donc, ça commence à bouger. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les arguments patrimoniaux, justement, opposés au projet de Lane
Oui,
Housing?
oui. Oui, c'est sûr qu'il faut les considérer. Il y a certains désavantages possibles. Moi, en fait, j'ai un cas sur lequel j'ai travaillé ici à Montréal. C'est un projet qui donne sur ce qu'on appelle une rue ruelle. Donc, c'est une ruelle, justement, qui est nommée, donc sur laquelle il peut y avoir des adresses. C'est sûr que c'est là qu'ils ont été très pointilleux. Ils ont dit, ben, une ruelle, c'est déjà un milieu dense. Il faut pas ombrager les terrains des voisins parce que les terrains sont à l'arrière des maisons dans les ruelles. Et donc, il a fallu qu'on démontre à l'aide d'une maquette et d'études d'ensoleillement qu'on venait pas nuire à la qualité de vie des voisins, là, surtout en termes d'ensoleillement. Donc, c'est vrai que c'est des critiques dont il faut tenir compte parce qu'il faut que l'impact de ces interventions-là soit positif dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a un certain potentiel là, d'avoir un impact défavorable. Je crois que les cas qui sont les plus intéressants et puis qui doivent être explorés, parce que comme je dis, c'est vraiment un phénomène qui a beaucoup de potentiel, aussi bien pour créer du logement dans des centres urbains déjà denses et aussi pour amener une densité à une échelle qui est conviviale. C'est de construire là où il y a déjà des constructions à l'arrière des maisons. Il y a souvent des garages, il y a souvent des appentis, des petits entrepôts qui sont construits à l'arrière des maisons. Alors, je crois que le plus grand intérêt, ce serait de construire des logements sur l'empreinte d'une construction existante, soit qu'on ajoute un étage, soit qu'on la transforme pour qu'elle devienne habitable, soit que si nécessaire, on la démolit, c'est qu'on reconstruise dans l'empreinte du bâtiment.
Est-ce que les fonctionnaires, municipaux iraient, dans certains cas, jusqu'à approuver des petites maisons qu'on appelle les tiny houses? Est-ce que ce serait toléré, ça, d'après toi?
Ouais, pour l'instant, non. Avec la réglementation actuelle, ouais. Non, parce qu'il y a des tailles minimales qui sont exigées, par exemple, ouais. pour les maisons et tout et tout. Donc, il y a certains obstacles à ce niveau-là. Bon, je connais pas. Ça, c'est le genre de situation qui peut varier d'une municipalité à l'autre.
Oui, bien sûr.
Au Canada, il y a des milliers de municipalités. Il y en a probablement qui sont plus progressives et qui tentent de permettre les tiny houses, mais de façon générale, en milieu urbain, là, j'ai pas entendu qu'il y ait eu je suis certain qu'il y a moyen d'en aménager, là, mais que ce soit officiellement reconnu dans la réglementation, ça, j'en ai pas entendu parler.
D'accord. Et si on pouvait passer un message à ceux qui songent à construire une petite maison d'accès à ruelle, Laneway Housing, sur Vancouver, ne le faites pas pour uniquement par la suite établir un Airbnb. C'est pas l'objet. Il faut que ce soit pour l'accès au logement. Alors, c'est juste un petit clin d'œil à l'actualité. L'accès au logement est très difficile à Vancouver, ici à Victoria également. Donc, Airbnb a chamboulé l'écosystème. Alors, justement, l'apparition de ces maisons de ruelles, c'est une bonne nouvelle, attendue, bien sûr, qu'elles servent aux travailleurs qui résident dans les secteurs concernés. Voilà. Donc, un dernier mot sur ce sujet, Jean-Christophe?
Comme on a dit, je pense que c'est dans l'ensemble, c'est une très bonne idée. En même temps, il y a quelques cas. Il semble qu'à Vancouver, il y a quelques cas qui ont été problématiques et qui vont peut-être amener une certaine révision de la réglementation, là où, en fin de compte, ce qui s'est construit, ça devenait des petits manoirs pratiquement. Donc, ils allaient vraiment au maximum de ce qu'ils pouvaient construire et puis c'était des trucs assez volumineux, assez clinquants. Et puis, donc, il a peut-être avait un impact un peu moins intéressant sur le voisinage, mais dans l'ensemble, c'est certain que c'est une excellente idée, une façon ingénieuse de densifier de façon à échelle humaine les quartiers centraux des villes canadiennes.
Avec des avantages socio-économiques et même écologiques sur
Absolument.
La durée.
Absolument.
Formidable.
Absolument.
Jean-Christophe, architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire, comme toujours, un grand merci pour l'éclairage que tu apportes sur ces questions dans l'émission Le Débrief. À très bientôt, j'espère.
Merci à toi, Alexis. À bientôt.
À bientôt.